Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba. Ce journal vespéral sur Radio Okapi s'ouvre par cette position ferme de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Pas un seul site de déplacés ne doit héberger des groupes armés, encore moins des armes. Position affichée vendredi depuis la localité d'Etiomé en Ituri lors de la visite avec Jean-Pierre Lacroix. Vous suivrez également le point que fait Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, sur la création de la société aérienne Air Congo pour laquelle l'acquisition des deux avions est annoncée pour décembre prochain. En marge de la commémoration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix, vous suivrez comme invité de ce journal Narcisse Ziyindoula. Il est coordonnateur du projet Mupaka Chambaletu de Alert International. Il sera question de la paix et de la cohésion sociale entre communautés. Et pour avoir d'amples détails sur tous ces titres et bien d'autres nouvelles d'actualité, restez avec nous dans ce journal pour découvrir le Congo profond à travers les diverses fréquences de Radio Okapi, votre source d'information par excellence. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Comme dit tout à l'heure, les sites déplacés doivent être totalement exempts des groupes armés et d'armes. C'est l'appel lancé par Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, en réponse aux allégations sur la présence d'hommes armés dans les camps des déplacés en Ituri. Elle l'a dit vendredi depuis la localité de Tchoumia, située à 60 km de Bounia, où elle s'est trouvée en visite avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, en charge des opérations de paix. Plus de détails avec Jean-Claude Lokidile.
À Tchoumia, les responsables militaires ont informé Jean-Pierre Lacroix et Bintou Keïta que, lors des opérations de traque des hommes armés, certains assaillants se replieraient dans les camps de déplacés avec leurs armes. D'après eux, certains assaillants se cacheraient dans ces sites, compliquant ainsi les efforts pour sécuriser la population, notamment les déplacés. En réponse, Bintou Keïta a réaffirmé que les sites de déplacés doivent demeurer intouchables par des personnes armées.
Parce qu'il y a deux choses que nous voyons. Il y a la présence des armes dans les sites et il y a présence des armes à proximité des sites. Dans les deux cas, ce n'est pas quelque chose qui facilite la paix parce qu'on peut le prendre à l'intérieur et on va les chercher à l'extérieur pour la résurgence finalement de la violence.
Jean-Pierre Lacroix a également insisté sur l'importance de respecter le caractère humanitaire des camps de déplacés.
C'est aussi à la population, aux civils dans les camps, de veiller à ce que les camps ne soient pas détournés de leur fonction. C'est une responsabilité de tous, de vous, de nos collègues, la MONUSCO, évidemment, des autorités provinciales, FARDC, la police aussi.
Rappelons que depuis les débuts de la semaine, des sites de déplacés ont été attaqués par des hommes armés dans les territoires de Djougou. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et puis, au terme de sa visite en RDC, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix a fait le point sur la situation du désengagement de la MONUSCO de la RDC. Lors de sa conférence de presse, Jean-Pierre Lacroix a tenu à préciser qu'il n'est pas de l'intention des autorités congolaises de voir la MONUSCO quitter au 31 décembre 2024. L'objectif étant de maintenir le désengagement, mais l'accent est plus maintenant sur ce qui reste de faire en commun. On écoute Jean-Pierre Lacroix dans ses propos sélectionnés par Jacques-Yves Molim.
Le plan de désengagement qui a été agréé l'année dernière avec les autorités congolaises, qu'on précisait une seule étape en tant que première étape, c'est le Sud Kivu, d'où nous sommes retirés maintenant. Il nous appartient avec les autorités congolaises de tirer les leçons de ce retrait et puis de regarder avec les autorités congolaises quelles pourraient être les étapes ultérieures, sachant qu'il doit sans doute se faire dans les prochaines étapes dans le cadre d'une approche différenciée, c'est-à-dire pas nécessairement une province, puis une autre province, puis une troisième province. Enfin, j'insiste, l'accent a été mis surtout par les autorités congolaises sur le travail commun à faire, les attentes à l'égard de la MONUSCO. Je rappelle aussi que nous avons de nouvelles tâches comme le soutien à la SAMIDRC ou encore le soutien au mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Je voudrais enfin préciser qu'il n'a jamais été question que la MONUSCO parte au 31 décembre 2024. Elle ne partira pas. En tout cas, ça n'est pas l'intention des autorités du tout. Leur intention, c'est bien sûr que l'objectif du désengagement, nous sommes d'ailleurs d'accord, doit rester parce que le but, c'est précisément de créer les conditions pour que la MONUSCO puisse partir, conditions de retour à la stabilité et à la paix. Mais l'accent est beaucoup sur le travail qui reste à faire en commun.
La justice à présent, 18 à 30 mois de servitude pénale. C'est le jugement rendu vendredi soir à l'issue du procès des étudiants de l'Institut Bâtiments et Travaux Publics et BTP Boutembo. La peine la plus lourde est infligée à cet étudiant reconnu coupable de coups et blessures volontaires simples. Tous les 11 prévenus ont également été condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts de 50 000 $ américains. Une satisfaction de la société civile locale, comme nous le dit Sadiki Aboubakar.
Dans ce jugement rendu vendredi soir, le tribunal de grande instance de Boutembo condamne 3 étudiants à la peine de 18 mois de prison ferme. Il s'agit des étudiants Katembo Kioma Justin, Malonga Basosila Rodrigo et Kisanga Bilambalamba Delphin. Ceux-ci ont été reconnus coupables de l'infraction de destruction méchante de la maison du directeur général de l'IBTP et celle de l'administrateur de budget. La peine la plus lourde, 30 mois de prison, est infligée à 7 étudiants reconnus coupables de coups et blessures volontaires simples sur mineurs et de destruction méchante. Il s'agit des étudiants Abiandro Aenda Nikevin, Lokako Adjeninga Eli, Ifonde Falanga Enaï, Mumbere Kaenga Jules, Mugisha Kaengo, Biamungu Chibalonza et Kamate Nelson Pacifique. Le secrétaire général académique de l'IBTP, Kakule Kayana Julien, a lui été condamné à 12 mois de servitude pénale, dont 6 mois avec sursis. La défense promet d'interjeter appel. John Kameta, un acteur de la société civile de Boutembo, exprime sa satisfaction face à ces jugements qui, selon lui, est une sanction exemplaire qui pourra mettre fin à la barbarie des étudiants et les amener à une prise de conscience et à la responsabilité individuelle. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Deuxième titre de ce journal, signature hier vendredi à Kinshasa des statuts portant création de la société aérienne Air Congo. C'est le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, représentant le gouvernement congolais, qui a procédé à la signature avec la compagnie Ethiopian Airline Group. Selon le ministre du portefeuille, il s'agit d'une société d'économie mixte dont la RDC est actionnaire majoritaire. Il annonce l'arrivée des 2 avions dès le mois de décembre prochain. On écoute le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa au micro de Kelin Kouté.
Une société que nous voulons efficace, dynamique, pour rencontrer la demande du transport à l'intérieur de la République démocratique du Congo et desservir aussi bien les pays africains avec une perspective d'aller au-delà de l'Afrique. Et donc, d'après une réunion que nous avons eue sous les auspices du vice-premier ministre, ministre des Transports, les premiers avions, 2 avions donc, arriveront à Kinshasa dès décembre prochain. Et 6 mois après, donc 2025, autour de juin, nous aurons 4 avions supplémentaires. Ces partenariats nous envoie à la coopération sud-sud va permettre à la République démocratique du Congo de profiter de la grande expérience d'Ethiopian Airlines et de permettre de transférer les compétences d'Ethiopian Airlines vers la République démocratique du Congo.
Nous nous rendons à présent dans la province du Tanganyika où plus de 900 sinistrés des inondations dans le territoire de Moba ont bénéficié d'une assistance à un non-vivre de la Croix-Rouge RDC. Le lancement officiel de la distribution de cette assistance humanitaire a eu lieu jeudi dernier sur le site de Kinzungi à Mobaport. Le point avec Paulin Munanga.
Les sinistrés des inondations des villages Kinzungi, Kanzombwe, Kapakwe et Ntonto dans le territoire de Moba bénéficient des kits pour la construction des abris. Il s'agit des bâches, des planches et des clous pour fixer les bâches ainsi que des moustiquaires. En plus, chaque sinistré va bénéficier du cash. D'après le chef de division chargé des urgences à la Croix-Rouge dans la province du Tanganyika, il y a des critères préétablis pour bénéficier de cette assistance humanitaire. Christophe Kafindou évoque notamment les ménages où il y a les femmes qui sont comme chef de ménage. Il y a aussi les ménages où la femme est enceinte ou encore les ménages où il y a des enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire il y a une femme allaitante. Les ménages où il y a des personnes vivant avec handicap et le ménage qui a perdu complètement sa maison. La Croix-Rouge signale aussi que plus de 1000 sinistrés des inondations dans la ville de Kalemi ont été assistés. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
18h, presque 10 minutes ici à Kinshasa. Vous suivez Radio Okapi sur ces différentes fréquences. Nous nous rendons à présent dans le Kasaï oriental pour parler du lancement mercredi à Mbujimayi du projet de renforcement de la résilience et l'autonomie familiale en sécurité alimentaire qui sera implémenté par CARE RDC et l'Agence belge de développement
développement Yanabel. D'après le coordonnateur des programmes de développement Acker RTC, ce projet qui s'étale sur 3 ans a pour but d'améliorer la résilience, la sécurité alimentaire, l'autonomie des femmes et des exploitants agricoles de 1000 ménages répartis dans les territoires de Miabi, Katanda, Lupatapata et Chilenge. Jean Makelele, coordonnateur des programmes de développement Acker RDC, s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
C'est un projet de sécurité alimentaire qui poursuit essentiellement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est améliorer la résilience et l'autonomie des familles, des exploitants agricoles au choc. Et là, on prend en compte tout ce qui est choc économique, les chocs environnementaux et climatiques qui seront pris en compte. Et le deuxième objectif, c'est de renforcer les capacités de responsables des exploitations agricoles à mobiliser des pratiques innovantes et durables qui vont effectivement leur permettre de réduire leur vulnérabilité économique mais aussi alimentaire. Et le troisième objectif, c'est de renforcer les capacités en gestion économique et financière des responsables des exploitations agricoles les plus vulnérables, mais aussi les rôles de la femme dans la gestion au niveau de ces exploitations. Les programmes ciblent essentiellement 1000 ménages qui sont répartis dans 4 territoires.
Les casques bleus de la MONUSCO remplissent pleinement leur mission de protection des civils à Ituri malgré les défis sécuritaires. C'est ce qu'a déclaré vendredi la plateforme du Front commun des jeunes congolais de l'Ituri à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre. Cette déclaration est intervenue alors que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, était en mission à Bounia. Gentil Kaniki, président de cette structure, a salué la coopération entre les forces onusiennes et les FRDC qui a permis de repousser plusieurs attaques des groupes armés contre des camps des déplacés. Il a également lancé un appel au gouvernement pour un soutien financier et logistique aux FRDC. Il est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Il est vraiment important que nous puissions exprimer notre sentiment de reconnaissance aux multiples actions de la sécurité et de maintien de paix que mène la MONUSCO aux côtés de FRDC en Ituri. La MONUSCO exécute son mandat aux côtés du gouvernement sans faille malgré tout. Une tentative d'un massacre de grande envergure dans les sites de déplacés de la plaine Sabo a été repoussée grâce aux efforts de la FRDC appuyée par les unités des forces de casque bleu bangladais de la MONUSCO par des affrontements sérieux depuis ce jeudi. Nous demandons au gouvernement de la République de prendre encore une fois de plus en toute sérieuxité et de considérer les besoins devenus très urgents de l'appui tant financier que logistique au FRDC, menant les opérations dans les provinces sous état de siège, notamment l'Ituri et le Nord Kivu, pour imposer la paix et la sécurité dans la région.
Cette dernière nouvelle avant en RDC avant de passer à la page internationale. Le 20 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du nettoyage. Ici à Kinshasa, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a organisé une opération de ramassage des déchets plastiques dans la commune de Kassavubu. Plusieurs jeunes membres des ONG et autorités de la commune ont pris part à cette opération. À travers cette activité, l'UNESCO veut sensibiliser la population à la culture de l'éducation environnementale. Témoin de l'événement est
Nous, en tant que jeunes, nous devons nous engager dans cette lutte puisque nous sommes une génération future.
Paulin Lokunda fait partie de ces jeunes qui ont participé ce vendredi au ramassage des déchets plastiques. Il pense que tout le monde doit se mobiliser pour rendre notre environnement sain. Isaias Barreto da Rosa, représentant pays de l'UNESCO, rappelle ici la nécessité de protéger notre environnement.
Nous avons besoin aussi de protéger l'environnement et il est important que chacun et chacune amène sa contribution dans le cadre de la protection de l'environnement.
Patricia Makuma, un des responsables de Kin Ezobonga, un projet de l'hôtel de ville de Kinshasa, elle a à cette occasion annoncé l'intention du gouverneur de la ville de rendre la capitale propre.
La ville a déjà des projets sur les déchets plastiques, va travailler avec les usines en place pour faire de ces déchets plastiques beaucoup de choses.
Pour sa part, Finesse Masombo, bourgmestre de Kassavubu, rappelle aux habitants de sa juridiction l'obligation de lutter contre l'insalubrité.
Sensibiliser la population, mais aussi leur parler du bien fondé du maintien de notre environnement propre.
Signalons qu'à la fin de l'activité, une séance de sensibilisation a été organisée à l'intention des chefs de quartier et enseignants sur l'éducation environnementale.
Actualité internationale.
Le Salon africain de la défense et de l'aérospatiale de retour à Pretoria pour une 12e édition. L'événement qui a lieu 2 fois par an présente les nouveautés en matière d'outils de défense et de guerre. Partout dans les allées du centre d'exposition, des entreprises présentent leurs équipements de défense de dernière génération. Au Salon africain de la défense et de l'aérospatiale, chacun essaie de sortir du lot. Pour cette 12e édition qui se tient jusqu'à la fin de la semaine, plusieurs pays sont venus présenter leur matériel militaire. Parmi eux, la Chine, la Turquie ou encore le Pakistan. Et puis, quelques jours après les inondations dans la ville de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, l'heure est au premier bilan. Plusieurs morts à déplorer, des disparus et des blessés sans compter les dégâts matériels. Les habitants sont désemparés. L'inondation a détruit des infrastructures essentielles, notamment deux grandes digues du barrage d'Alaou. Lorsque le barrage a cédé, 540 milliards de litres d'eau ont inondé la ville. Les principaux ponts reliés à Maïdougouri se sont aussi effondrés.
L'invité.
Je vous l'ai dit dans les sommaires, Narcisse Zihindula, coordonnateur du projet Mpaka Chambaletou de Alert International, est notre invité. Il revient sur les efforts déployés par Alert International pour construire la paix en renforçant la cohésion sociale entre les communautés. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangou.
Narcisse Zihindula, bonjour.
Bonjour Rachel Kiesembangou.
Comment s'inspirer de cette thématique de la paix pour construire la paix dans les communautés pour Alert International qui travaille dans la construction de la paix?
La Journée internationale de la paix, pour nous, c'est une occasion, une opportunité de célébrer un peu tous les efforts que Alert International et ses partenaires continuent à mettre en jeu pour construire la paix, pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés, le vivre ensemble, étant donné que cela a été prouvé que la paix reste un besoin pour tout le monde. La paix, c'est tout ce qu'on peut espérer avant tout. C'est ce qui permet la prospérité, c'est ce qui permet le développement économique, c'est ce qui permet même de travailler sur les questions de la santé. Et c'est comme ça que pour nous, cette journée spéciale, nous célébrons quand même tous les petits succès que nous avons pu atteindre à travers les différentes interventions de nos projets, nos programmes.
Concrètement, que faites-vous avec les communautés pour contribuer à la paix à travers vos activités sur terrain, en RDC, particulièrement ici, dans la partie Est?
Alert International, en tant qu'une ONG de peace building, d'abord, dans sa vision, voudrait que les personnes et les sociétés peuvent résoudre les conflits sans recourir à la violence, mais aussi en travaillant ensemble pour construire une paix durable et inclusive. Et là, Alert, dans sa mission, elle vise à briser les cycles de la violence et de construire une paix durable, notamment en travaillant avec les personnes qui sont directement touchées par les conflits violents pour trouver des solutions durables. Pour nous, on ne rêve pas un monde où les conflits n'existent pas, parce que le conflit est inhérent à la vie et à l'existence humaine, mais c'est la manière dont on peut résoudre ce conflit qui compte. Et donc, pour nous, on renforce les communautés pour qu'elles peuvent être résilientes et que lorsqu'il y a des conflits qui peuvent survenir, elles peuvent trouver des solutions pacifiques à ces conflits. On travaille aussi sur le renforcement des leaderships. Vous savez, les leaders peuvent conduire l'opinion, peuvent influencer les membres des communautés. Alors, à ce moment-là, on fait le renforcement aussi de ces leaders pour qu'ils puissent être des leaders qui conduisent les gens et leurs communautés dans une voie de paix. Et troisièmement, les plaidoyers, parce qu'on vit dans un environnement où il y a des politiques qui doivent décider, il y a des autorités qui doivent prendre des mesures. Et là, nous faisons le plaidoyer pour les amener à comprendre un peu dans quelle manière est-ce qu'ils peuvent mettre en place des politiques qui promeuvent une culture de paix au sein des communautés et qui favorisent les vivre ensemble.
Quel bilan faites-vous de votre contribution à la paix au Sud Kivu jusque-là?
Et le travail que nous avons fait, premièrement d'abord, c'était d'amener les communautés à s'accepter. À accepter qu'on peut être différent, mais qu'on peut avoir des éléments qui sont communs, nous pouvons avoir des intérêts qui sont communs. Permettre aux communautés de s'accepter mutuellement et de trouver des moyens et des mécanismes qui peuvent permettre à ce que les divergences peuvent trouver des solutions. Et là, c'est à travers différentes plateformes ou différentes structures communautaires qui ont été mises en place, telles que des bazars, telles que des paillotes de paix, telles que des groupes de dialogue, ainsi de suite. Donc, ces mécanismes que nous avons installés dans les communautés permettent à ce que quand même Lorsque les conflits surviennent, ces groupes-là peuvent jouer leur. Nous-mêmes, par exemple, aujourd'hui, on est en train de piloter ce projet Mupaka Chambalitu, qui est un projet de commerce transfrontalier exercé entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, et où on est en train de promouvoir cette approche business for peace. Comment est-ce que le commerce dans cette région des Grands Lacs peut être au-delà d'être un moyen de renforcer la prospérité et les revenus pour les nations, ça peut être aussi un moyen de promouvoir la paix dans cette région.
Pour finir, quel est le message de alerte internationale en rapport avec la journée internationale de la paix pour renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique?
Le message d'alerte est simple, la paix est possible. Nous ne devons pas penser que la construction de la paix, c'est une affaire des autres. Chacun, là où il est, dans son environnement, avec les gens avec qui il vit, il peut construire la paix. Et ça, c'est premièrement d'abord de croire qu'il a un rôle à jouer, et deuxièmement, de s'ouvrir aux autres, d'accepter les différences. C'est plus facile de dire « je veux la paix », mais quand vous vous rencontrez dans des situations un peu compliquées, c'est là que vous commencez à prendre votre parti, et là, vous n'êtes plus favorable à la paix.
Narcisse Ziyundoula, je vous remercie.
Merci madame.
Auditeurs de Radio Okapi, ce journal vous a été préparé par Jude Mister Bilanda, Jakif Molima, Jean-Noël Mokonda assurait la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Loutouma vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci de l'attention particulière nous accordée. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour la dernière session d'information sur Radio Okapi.